Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
C'est la deuxième phase, le deuxième interview concernant un ouvrage intitulé « Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique » publié aux éditions Erol. Cet ouvrage synthétise le savoir dispensé pendant 10 ans par les cours, exposés et thèses développées dans le cadre du master spécialisé éponyme de l'École des Ponts Paris Tech, conçu et dirigé par Jean Carassus et repris et développé après 1 an de co-direction par Dominique Naert, qui sont donc nos deux invités aujourd'hui encore avec plaisir. La somme des connaissances exposées est impressionnante, mais ce qui rend l'ouvrage particulièrement exceptionnel, ce sont les démarches, process et positionnements développés par leurs concepteurs. Des points de vue et des visions sur ce que la filière, peut-être comme évoqué lors de l'interview précédente, la double filière, doit faire pour réussir cette transition carbone et numérique. Alors, ma première question, c'est que votre objectif est, si j'ai bien compris, de redéfinir en profondeur les modes de construction, mais aussi de rénovation, de gestion et d'utilisation des immeubles. Vous écrivez, je cite, « Il suffit de visiter un chantier pour être conscient du fossé qui existe entre la réalité d'aujourd'hui et les exigences de demain. » Dominique Naert.
Oui, effectivement, vous connaissez, vous avez tous fait, en tout cas, si vous n'avez pas visité de chantier, vous avez fait quelques chantiers dans vos appartements et vos habitations, et vous savez très bien que aujourd'hui, sur le terrain, la problématique du gaspillage, la problématique de la propreté, la problématique du recyclage, la problématique de la localisation, tout ça. Ce sont des sujets qui sont abordés, mais sur le chantier, on ne voit pas beaucoup de choses changer. Évidemment, ça change radicalement chez les majors, dans les belles TPE, mais dans les petites et moyennes entreprises, pas vrai. Il faut savoir que 89% des chantiers sont réalisés par des ouvriers et des artisans, alors que tout ce qu'on pense voir avec les majors et les entreprises de 200 personnes, c'est 11% du chiffre d'affaires français. Donc, et 50% de ces 89%, ce sont des entreprises de une personne, autrement dit des auto-entrepreneurs, ou peu importe le statut. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, il y a un grand fossé entre la nécessité durable, y compris dans le positionnement social de ces ouvriers, de ces artisans, et la nécessité d'atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone.
D'accord. Alors, maintenant, je voudrais citer Léo Ferré. Je suis en 1973. Ça s'appelle « Il n'y a plus rien ». Et je cite « Nous entrerons dans la carrière » quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. La question, au fond, c'est qu'est-ce qu'au fil de ces années, vous avez observé sur cette question, réussir la transition environnementale, une évolution des mentalités, en particulier chez les jeunes générations qui, comme le prédisait Léo Ferré, vont bien finir d'une façon ou d'une autre par prendre un jour le pouvoir. Jean.
Dominique et moi, on fait partie d'une génération d'un peu d'anciens. On fait peut-être partie de la minorité de ces anciens qui sont hyper motivés pour ce changement fondamental de la transition carbone et de la transition numérique, surtout cette partie carbone. Au-delà du carbone, la biodiversité et les ressources. Ce que l'on observe assez clairement, c'est que effectivement, au travers notamment de ce master spécialisé de l'École des Ponts, que les jeunes générations, ce sont des cadres confirmés quand même, hein, la plupart du temps, c'est pas des débutants. Mmh. La moyenne d'âge est de l'ordre de 35 ans. Ils sont hyper motivés. On sent même une évolution entre la promotion suivie par Dominique quand il a suivi ce master en 2014-2015 et maintenant, on sent bien une évolution sur la motivation de ces jeunes qui a beaucoup progressé. Donc on sent bien que les 25-35-40 sont en train en partie, en grande partie, de s'emparer de ce nouveau mode de construction, rénovation, gestion, utilisation. Et donc, on pense qu'il y a vraiment des changements potentiels. Ça nous remonte le moral quand on voit la filière immobilière un peu trop immobile, au-delà des opérations exemplaires. Ça, tout le monde fait des opérations exemplaires. Mais le changement profond de l'empreinte carbone de toute la production et de toute la gestion, ou bien l'approche systématique de la biodiversité, ou bien l'économie systématique des ressources, c'est minoritaire dans la filière. Et donc, ce sont ces jeunes, avec cette vision globale qui est offerte par le bouquin, puisqu'on traite à peu près toutes les dimensions de l'immobilier et bâtiment. C'est une approche socio-éco-technique. On ne se limite pas à la technique, même si on est dans une école d'ingénieurs. Il y a beaucoup de parties économiques et il y a beaucoup de parties à caractère sociologique. Eh bien, ces jeunes sont en train de s'emparer de cela et ça nous rend raisonnablement optimistes.
Ça peut craquer.
Ça va finir par craquer d'une manière ou d'une autre.
Je parcours l'introduction et je lis « Réorienter l'outil numérique vers la révolution environnementale ». Un outil, une révolution, en quoi la technologie, ou plutôt l'évolution de la technologie, accompagne-t-elle, voire peut-elle parfois contrarier, la transition environnementale, Dominique ?
Alors quand on parle de numérique, on a toujours deux sujets. Le premier sujet, c'est le fait de produire, pour produire du numérique, il faut, on utilise encore aujourd'hui beaucoup, enfin essentiellement des énergies carbonées. Donc ça, c'est un premier problème. La deuxième partie du sujet, c'est effectivement grâce au numérique, on peut se permettre de mieux dimensionner les choses, d'éviter du gaspillage. Le BIM, pour moi, le Building Information Modeling, ça veut dire en fait réussir à modéliser de telle façon que sur le chantier, on ne va pas casser et recasser les choses, et donc dépenser de l'énergie, dépenser des matériaux, et donc émettre du carbone en trop. Donc, pour moi, et c'est ce qui est exprimé à travers le livre, c'est que effectivement, il y a les deux dimensions. La dimension, on ne peut pas écarter la problématique de la dimension énergétique carbonée qu'il va falloir faire évoluer. Et ça, pour moi, ça va dans, c'est parti pour. Mais la deuxième chose, c'est que on ne peut pas aujourd'hui bien dimensionner les choses, éviter les gaspillages, éviter les pertes d'énergie et les pertes d'efficacité. Sans utiliser cet outil magnifique qu'est le numérique.
Mais alors, le BIM là, dont vous parlez et dont on commence à avoir maintenant des retours d'expérience sur un assez grand nombre d'années de réalisation, etc., est-ce que ça a vraiment changé la façon de travailler et est-ce que ça nous a en particulier fait avancer sous l'angle d'une intelligence collective, d'un travail collaboratif, etc. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Alors là, c'est un sujet extraordinaire parce que, en fait, aujourd'hui, le BIM, d'abord, ça reste encore très anecdotique. Je veux dire, ce n'est pas anecdotique quand on est sur Paris, mais c'est anecdotique quand on commence à aller dans les territoires. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le BIM a été emparé par des bureaux d'études et par des grosses entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plutôt une tendance à faire du BIM conception, mais pas du BIM réalisation. Le BIM, ça veut dire Building Information Modeling, c'est la modélisation des données d'un bâtiment. Et là, je répète ce que j'avais dit dans la première émission, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une intelligence du modèle si on n'a pas pris en compte l'ensemble des données répertorié auprès de tous les usagers, de tous les réalisateurs, de tous les donneurs d'ordre et aussi de toute la filière immobilière.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on termine avec le point suivant, c'est qu'au fond, on l'a d'ailleurs évoqué au tout début de première interview, il y a 15 jours, cette idée finalement tout à fait originale d'intégrer la filière immobilière. Filière immobilière, c'est quoi ? C'est le marché, c'est le droit, c'est la finance, d'un côté, avec celle de la construction, celle du bâtiment, qui est plutôt l'architecture, ingénierie et entreprise. Ça, c'est une idée extrêmement originale, et quand on l'entend, qui paraît l'œuvre de Christophe Colomb, qui paraît une évidence, sauf que c'est pas tout à fait si simple que ça à faire. Alors, comment aborder, comment réussir cette transition, puisqu'on comprend bien que le sujet, c'est la transition, grâce à l'intégration, à l'articulation, je reprends votre expression, qui est peut-être meilleure d'ailleurs, l'articulation de ces deux filières. Jean.
Oui, c'est effectivement, quand nous avons créé ce master, et on l'a bien sûr repris dans le livre, bien que nous étions dans une école d'ingénieurs, on n'a pas voulu faire quelque chose technique bâtiment. Parce que technique bâtiment, c'est un aspect du problème, et ça ne peut pas déboucher sur une réussite si on a une approche purement technique. La transition carbone et environnementale exige des réponses globales. Globale au sens où elle concerne l'ensemble des personnes qui contribuent à la réalisation et la gestion d'un immeuble, en plus inséré dans une ville, etc. Donc, effectivement, il nous a semblé absolument indispensable, quand on fait la diminution de l'empreinte carbone, quand on fait la diminution de l'empreinte ressource, quand on fait attention à la biodiversité, on ne sait pas si ça vient du financier, si ça vient de l'architecte, si ça vient du maître d'ouvrage, si ça vient de l'entrepreneur ou de l'industriel de la construction. On s'en moque un peu. L'important, c'est le résultat final. Et c'est à eux de se débrouiller ensemble, dans un processus collaboratif, avec cette notion d'intelligence collective que Dominique a mis en avant, notamment dans la première émission. Et effectivement, nous avons eu la volonté, et je pense qu'on a relativement bien réussi à faire, d'ailleurs ça se voit dans la structure du bouquin, on a deux parties. Avant de se lancer dans le process des bâtiments durables, qui est la deuxième partie, on a dit à tous ces acteurs de la filière, parce que ce bouquin s'adresse à l'ensemble des acteurs de la filière, eh bien, vous devez connaître un certain nombre de fondamentaux. Et on a défini 5 fondamentaux. Révolution industrielle, prospective, neutralité carbone, ça leur donne un cadre absolument indispensable à connaître. Ensuite, du quartier à la ville durable, l'immeuble, par définition, il est dans la ville, et l'empreinte réelle, c'est au niveau de la ville qu'on va la mesurer, c'est pas au niveau de l'immeuble. La conduite du changement, comportement, usage, c'est le troisième fondamental. Un bâtiment n'est pas fait pour économiser l'énergie, il est fait pour rendre service à des utilisateurs. Beaucoup de gens férus d'écologie l'oublient. Et ensuite, bien sûr, il y a la question fondamentale du financement de l'immobilier durable. Et puis, quand on gère un parc, la stratégie de gestion durable d'un parc. Vous voyez, on n'a pas encore parlé de l'immobilier du bâtiment, au sens précis du terme. Et on a tous les fondamentaux qui sont absolument indispensables à connaître, que ça soit du côté des gens d'immobilier ou des gens du bâtiment. Et après, le process, eh bien, on a le management de projet, du financement à l'exploitation. Et puis, on rentre dans les trucs un peu classiques qu'on connaît bien, mais complètement revus et corrigés, programme, conception, solutions techniques, exploitation. Donc à partir de là, on rentre dans des solutions concrètes. Il y a beaucoup d'exemples en France et à l'étranger. Et là, ça nous permet effectivement de donner de la matière pour tous les professionnels de la filière qui veulent s'emparer pour faire du bâtiment réellement durable.
Au fond, quand j'entends tout ceci, je me dis... apprendre aux uns à écouter les autres, parce que je ne suis pas tout à fait sûr que du maçon évoqué tout à l'heure au financeur de l'opération, la compréhension respective des deux professions soit très grande aujourd'hui. Et ce que vous êtes en train de dire et ce que vous avez démontré à travers ces 600 pages, c'est que l'un et l'autre travailleraient mieux s'ils avaient une meilleure connaissance, au fond, des logiciels, des façons de raisonner des autres acteurs de la filière, on peut dire ça comme ça ?
C'est exactement ça. Quand les cadres qui suivent la semaine financement de ce master, on ne va pas les transformer en financiers. L'objectif de la semaine, c'est qu'ils comprennent la logique et le mode de raisonnement d'un financier. Donc c'est ça l'objectif numéro un. D'abord comprendre la logique de fonctionnement de l'autre et écouter l'autre et avoir des objectifs communs avec l'autre. De type empreinte carbone, frugalité des ressources, respect de la biodiversité. Et à partir de là, comme le disait Dominique tout à l'heure, on est dans un processus d'intelligence collective et de collaboration. On n'est plus dans les séquences successives cloisonnées.
Messieurs les directeurs, merci pour ces deux interviews passionnantes. Mesdames et messieurs les auditeurs, précipitez-vous chez votre libraire pour ne pas consommer numériquement et environnementalement Et précipitez-vous chez votre libraire, ça s'appelle « Immobilier et bâtiments durables, réussir la transition carbone et numérique », c'est aux éditions Erol. Merci.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.